Jeudi 3 février, Nicolas Bouchard, la mémoire a-t-elle une utilité sociale ?
Merci, bonsoir à tous. Donc, la mémoire a-t-elle une utilité sociale ? Je peux enlever le masque ?
D'accord.
Ok, très bien. Donc, poser la question de la dimension sociale de la mémoire, ça me fait bizarre de parler sans masque, c'est-à-dire c'est interroger en fait la notion de mémoire collective, d'une certaine manière. Et il y a un phénomène assez étrange, c'est qu'aujourd'hui, cette dimension de mémoire collective semble incontournable à une réflexion sur la mémoire. C'est-à-dire que si on posait le sujet de la mémoire sans évoquer la notion de mémoire collective, ça paraîtrait incongru à n'importe qui. Et pourtant, le concept de mémoire collective est extrêmement récent. Jusqu'au début du XXe siècle, à peu près à la Première Guerre mondiale, le lien mémoire-société n'est jamais évoqué explicitement. La mémoire, ça apparaît comme un phénomène purement individuel qui peut renvoyer à des problèmes métaphysiques, à des problèmes moraux, à des problèmes épistémologiques, donc des problèmes liés à la connaissance. Est-ce que la mémoire me trompe ? Comment je fais pour savoir si ma mémoire est vraie ? Mais ces problèmes-là ne sont jamais reliés à des problèmes sociaux ou sociétaux. Et le terme mémoire collective, en fait, c'est un terme forgé par Maurice Halbwachs, qui est un sociologue, disciple de Durkheim, en 1925. Et donc jusque l'immédiate après Première Guerre mondiale, on ne parle jamais vraiment explicitement de mémoire collective. Et il y a deux remarques à ce propos de cette éruption du terme. C'est que c'est après la Première Guerre mondiale, donc après un événement qui a marqué toute une génération et dont l'importance de se souvenir va apparaître à partir des années 18, 19, 20, jusque maintenant. Ça, c'est le premier point. Donc c'est vraiment un événement historique majeur qui fait apparaître un peu le terme consciemment. Et puis la deuxième chose qui est importante, c'est que c'est forgé par un sociologue. Et c'est aussi important parce qu'à cette époque-ci, à cette époque-là, donc 1915-1920, la philosophie reste encore sur une perspective très 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 individuelle de la mémoire. À cette époque, c'est le philosophe qui parle un peu de la mémoire. Il y a eu Bergson à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et après-guerre, c'est Husserl qui en parle, mais ça reste dans une dimension totalement individuelle. Mais, il y a forcément un mais, s'il n'y a pas de conceptualisation avant 1920-25, ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'usage collectif de la mémoire avant. Bien plus, cette utilisation collective, sociale de la mémoire, elle est nécessaire en fait à l'émergence d'une collectivité d'ampleur. À partir du moment où on cesse de penser la collectivité au niveau du village, ou voilà, on va voir qu'on est quasiment obligé d'avoir recours à une mémoire, à un usage social de la mémoire, en tout cas. C'est ce que montre notamment un historien et philosophe anglais, Benedict Anderson, dans L'imaginaire national. C'est-à-dire que la nation, c'est nécessairement, c'est la thèse de Benedict Anderson, la nation est nécessairement un collectif imaginé. C'est-à-dire que je ne vis jamais une expérience concrète avec tous les membres de ma nation, puisque je ne les connais pas tous, c'est évident. Et donc, à partir de ce moment-là, la communauté de destin qu'est la nation est forcément imaginée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conséquences réelles, bien au contraire. Vous êtes avrais et français. Imaginons, ce qui est peut-être le cas pour certains d'entre vous, que vous n'ayez jamais mis les pieds à Lille. Imaginons aussi que ce soit la première fois que je viens au Havre. Voilà. Donc, dans le collectif que vous formez avec les Lillois, le collectif que vous formez avec les Lillois, en tant que Français, il est imaginé si vous n'avez jamais mis les pieds à Lille et si je suis le premier Lillois que vous rencontrez. Voilà, vous imaginez forcément avoir un destin collectif avec les Lillois. Il n'est pas réel, vous n'avez jamais vécu d'expérience concrète avec les Lillois. Donc voilà, vous ne connaissez aucun Lillois. Et c'est parce que vous vous sentez un destin commun avec ces Lillois que vous ne connaissez pas, que vous pouvez partir en guerre, que vous pouvez soutenir l'équipe de France, pour rester dans une thématique plutôt joyeuse, etc., etc. En tout cas, vous voyez, c'est le collectif imaginé qui va créer la nation. Or, pour imaginer cette collectivité nationale, Il faut entre autres un temps et une mémoire commune. Il a fallu que se constitue une mémoire collective pour que puisse émerger la nation. À ce propos, donc, Anderson, dans l'imaginaire naturel, montre l'importance du journal. Le journal, il crée un temps homogène, tout le monde va avoir le même temps, et il crée aussi un lien entre différents événements distincts. Sur la une du journal, vous allez avoir le compte-rendu du match de l'équipe de France, l'intervention du président, un petit élément sur, tout petit dans les journaux français sur la situation internationale, et il crée un lien imaginaire entre tout ça. Et donc, ce journal est lu par un groupe, et ça crée une mémoire commune d'une certaine manière, à partir d'un geste individuel. Le geste individuel de lire le journal seul chez soi nous relie aux autres et nous crée une mémoire commune du groupe. On aura tous su qu'il y avait eu la finale de la Coupe du Monde en juillet 2018. Voilà. Donc, ça veut dire cela, si la mémoire est nécessaire à l'existence d'une nation, qu'il existe une mémoire collective bien avant sa théorisation. Et que cette mémoire collective a des fonctions précises dans le groupe qu'il s'agit d'analyser. Mais pour pouvoir analyser ces fonctions, ce qu'on va faire plus tard, il va peut-être falloir partir d'une définition un petit peu plus précise de la mémoire collective, et c'est ce que propose notamment le texte 1, qui est un texte de Pierre Nora, dans un ouvrage collectif de Jacques Le Goff, donc qui sont deux grands historiens français de la fin du XXe siècle, et Nora du début du XXIe aussi. Donc Nora dit, en première approximation, la mémoire collective est le souvenir ou l'ensemble de souvenirs, conscients ou non, d'une expérience vécue et ou mythifiée par une collective vivante, par une collectivité vivante de l'identité de laquelle le sentiment du passé fait partie intégrante. Donc, dans cette définition, on voit, même si c'est la dimension collective qui intéresse Nora, il y a quand même de nombreux parallèles à faire avec la mémoire telle qu'on peut l'entendre. Pardon. D'abord, il y a le souvenir d'un événement passé, qui d'ailleurs peut être déformé et mythifié, voire presque imaginé. Ça, c'est le premier point. Mais ce qu'il y a en plus et qui est vraiment fondamental, c'est qu'il y a un partage par le groupe de ce souvenir. Le souvenir est partagé par l'ensemble du groupe. Ça, c'est vraiment le point fondamental pour pouvoir parler de mémoire collective. L'événement dont on se souvient est partagé par le groupe. Et puis, deuxième point très important, ce passé, ce souvenir, participe de l'identité du groupe. D'ailleurs, là, on peut aussi faire un rapprochement avec la mémoire individuelle, puisque notre mémoire individuelle participe de la création de notre identité également. Donc, si le passé est constitutif de l'expérience du groupe, c'est parce que il tient le groupe, d'une certaine manière. C'est le passé qui tient le groupe. C'est le passé qui cimente, d'une certaine manière, le groupe. Pour durer, tout groupe a besoin de cette mémoire collective. Voilà, ne serait-ce que là, admettons le collectif qu'on forme là, pour que ce collectif dure, il faut des archives, il faut, même ne serait-ce qu'une mémoire beaucoup plus courte, pour que vous sachiez un peu de quoi je parle, il faut déjà vous souvenir de ce que je disais il y a 5 minutes. Donc il faut déjà une mémoire, ne serait-ce que là, une mémoire collective. Et à ce titre, les seuls groupes qui pourraient théoriquement s'en passer, ce seraient des groupes qui seraient hors du temps, ou avec une conception du temps non linéaire. C'est-à-dire, par exemple, des groupes qui vivraient dans un temps qui ne serait pas historique pourraient éventuellement, si jamais ça existe, c'est pas sûr, se passer de mémoire collective. Bon, on doit quand même admettre que ces groupes qui vivent dans un temps non historique sont rares, pour ne pas dire inexistants. Donc, si la mémoire collective est nécessaire à l'existence du groupe, l'existence d'une dimension sociale de la mémoire est nécessaire pour que l'homme réalise sa condition sociale, sa condition politique. C'est-à-dire que l'homme est un être qui vit dans un groupe, la mémoire collective est nécessaire au groupe, donc forcément, d'une certaine manière, la mémoire collective est nécessaire à l'existence de l'homme en tant qu'homme. est nécessaire pour développer l'humanité de l'homme. Donc, voilà, à partir de là, il y a une nécessité de la mémoire collective pour l'homme comme être politique, et donc, puisque l'horizon peut-être de toute communauté politique reste la liberté, cette mémoire collective, elle est nécessaire pour que l'homme réalise sa liberté dans le groupe. Pourtant, en rester à cette part positive de la mémoire, ça serait quand même omettre une grande partie, ça serait omettre la part d'ombre que recèle la mémoire collective. C'est-à-dire que certes, elle fait exister le groupe, mais en même temps, la mémoire collective, elle nous attache au groupe. Elle s'impose à l'individu en tant que membre du groupe, et voilà, il ne peut pas déroger à cette mémoire collective pour que je sois reconnu comme membre du groupe. Il faut que je reconnaisse comme important ceux qui constituent la mémoire du groupe. Donc je suis assigné par la mémoire collective. À ce titre, on peut penser, pour bien saisir cette dimension, à la chanson de Brassens. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Mais on voit ce qui lui arrive à la fin, à Brassens. Hein. Donc, clairement, la mémoire du groupe a quelque chose de dictatorial. Pour reprendre le mot de Nora, dont on parlera tout à l'heure, la mémoire du groupe a quelque chose de dictatorial pour l'individu. Il y a donc une dimension aliénante de la mémoire collective. C'est-à-dire que, voilà, l'homme perd une part de sa liberté à cause de cette mémoire collective. Donc, la mémoire collective apparaît comme un instrument pour installer la légitimité du pouvoir sur le groupe. Et, ce faisant, il y a une utilisation de la mémoire collective pour soumettre l'individu au groupe, pour contrôler, d'une certaine manière, les pensées. Ce n'est pas pour rien que les dictatures apporte un soin particulier aux événements mémoriels. Donc, dans ce cas, il faudrait travailler à se libérer. Pour gagner en liberté, il faudrait se libérer des manifestations de la mémoire collective. Et donc, on se retrouve en face d'un paradoxe extrême. La mémoire collective semble à la fois nécessaire à notre réalisation en tant qu'homme et en même temps aliénante. D'où la problématique que je posais, hein. Comment la mémoire collective peut-elle à la fois constituer une nécessité pour la réalisation de notre humanité et en même temps un instrument de soumission de l'individu? Et pour essayer de dénouer ce paradoxe, il s'agit de revenir déjà sur un point qu'on a évoqué très brièvement, qui est le rapport entre mémoire collective et mémoire individuelle, puisqu'on est parti de là. Donc, pour la première partie propose, et on va voir que de là déroulent certaines fonctions sociales de la mémoire, comment articuler mémoire individuelle et mémoire collective. Et un préjugé tenace veut que la mémoire initiale, la mémoire originelle, d'une certaine manière, ce soit la mémoire individuelle. Et on ne parlerait de mémoire collective que par analogie. La mémoire collective serait au groupe ce que la mémoire individuelle serait à l'homme. Donc là, on a une analogie. Hein. La mémoire collective est au groupe ce que la mémoire individuelle est à l'homme. Ou, donc ce serait peut-être au mieux, ou au pire, par métaphore. Et donc, cette métaphore, aussitôt, elle est suspecte de ce qu'on nomme l'organicisme. En employant le terme, je vais expliquer ce que c'est que l'organicisme tout de suite, hein. En employant le terme de mémoire collective, on traiterait la société comme un organisme vivant, on la comparerait à un individu, avec le risque de pousser trop loin la métaphore. Exemple, justement, le racisme est un produit de cet organicisme. Quand on considère qu'un élément extérieur serait incapable de s'adapter à l'organisme social, quand on considère qu'un groupe est comme un cancer, comme un élément étranger à l'organisme social, on fait de l'organicisme et on voit comment on dérive très vite sur le racisme. Donc, Le préjugé aurait tendance à tenir pour suspecte la notion de mémoire collective. Et on doit reconnaître que la philosophie a participé à fond de ce préjugé. La mémoire comme objet philosophique est quasiment aussi vieille que la philosophie. Hein, ça arrive chez Platon, et voire même on pourrait monter, je pense, à Héraclite. Les théories de la réminiscence chez Platon, enfin voilà. Mais le point de départ de la réflexion sur la mémoire en philosophie est toujours, toujours individuel. Toujours. Jusqu'au XXe siècle. Or, il s'agit là, en fait, d'une réflexion, c'est surprenant de la part des philosophes, mais d'une réflexion totalement abstraite sur la mémoire. Pour une raison simple. En pensant que la mémoire originelle, c'est la mémoire individuelle, on oublie un fait, un léger détail, qui est que l'homme est un être social. Et cette dimension sociale constitue l'horizon de l'humanité. De ce fait, les autres jouent toujours un rôle dans notre souvenir. Que ce soit comme protagoniste, voilà, le plus souvent, je me souviens d'un moment que j'ai passé avec machin. Que ce soit comme objet, je me souviens de machin. Ou comme objectif aussi. Je me souviens de tel événement parce que ça intéressera Bidule quand je lui raconterai. Ou même minimalement, l'autre joue un rôle à travers mon souvenir, ne serait-ce qu'à partir de la langue. Je me souviens à partir de la langue, et la langue, c'est mon outil, enfin, c'est même pas un outil, mais c'est ce qui me sert à communiquer avec les autres. Donc, de fait, il y aurait une dimension collective à toute mémoire. Et pourtant, quelque chose résiste, parce que nos souvenirs nous semblent tellement intimes que l'on refuse de se déposséder de cela au profit du groupe. Et donc, on a un nouveau paradoxe qui guidera cette partie, qui est comment la mémoire collective peut-elle être à l'origine de toute mémoire, alors que le phénomène mnémonique, donc le phénomène de la mémoire, semble totalement personnel. Or, cette question, elle est centrale pour la fonction de la mémoire collective. Suivant que la mémoire collective est dérivée ou primitive, la mémoire collective ne jouera pas le même rôle pour l'individu et ne jouera pas le même rôle pour le groupe. Donc, de ce fait, élucider le rapport mémoire collective-mémoire individuelle est central. Et on va voir que très vite, malgré le préjugé, on est obligé, c'est le premier point, de reconnaître que toute mémoire est collective. Et le fait que la mémoire collective soit théorisée par la sociologie montre là un renversement de perspective radical. C'est-à-dire que, et comme je le disais, le fait que ce soit théorisé aussi après la Première Guerre mondiale, il faut faire partie d'un groupe pour pouvoir se souvenir. Dans ces conditions, la mémoire collective, non seulement elle est primitive, mais elle est condition de la mémoire individuelle. On ne peut parler de mémoire individuelle que parce qu'il y a une mémoire collective. Ça paraît extrêmement contre-intuitif. Parce qu'en effet, quand nos souvenirs nous semblent totalement intimes. Mais ça paraît extrêmement contre-intuitif, mais si on y réfléchit, je ne me souviens jamais de quelque chose comme ça. Je me souviens donc parce que je l'ai vécu avec quelqu'un, parce que pour l'évoquer avec quelqu'un, parce que j'aurais aimé l'évoquer ou le vivre avec autrui qui n'est pas présent ou qui n'est plus présent. Donc du coup, le groupe est toujours présent dans mon souvenir. C'est ce que montre Maurice Halsvack donc dans son livre La mémoire collective et notamment le texte 2, où il relie ça clairement à ce qu'est l'individu. Nos souvenirs demeurent collectifs et ils nous sont rappelés par les autres alors même qu'il s'agit d'événements auxquels nous seuls avons été mêlés et d'objets que nous seuls avons vus. C'est qu'en réalité, nous ne sommes jamais seuls. Il n'est pas nécessaire que d'autres hommes soient là qui se distinguent matériellement de nous. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, nous sommes le produit de nos interactions sociales. Et donc, quand on se souvient en tant que produit de ces interactions sociales. Voilà. Si vous voulez, nos souvenirs dépendent des différents groupes qui nous ont formés. Voilà, je parlais de la finale de la Coupe du Monde tout à l'heure. Si vous avez été socialisé dans un groupe qui s'en fiche totalement du foot, cet événement qu'est la finale de la Coupe du Monde vous passera, mais à mille lieues, et ça ne constituera jamais un élément de souvenir. Pour vous en souvenir, il faut que vous apparteniez à un groupe, alors soit familial, soit même en tant que Français de la société française du XXIe siècle, voilà, le foot, même si vous êtes contre, le foot a pris forcément une importance, et en tant que ça, vous allez forcément vous en souvenir en tant que Français du XXIe siècle. Pour après peut-être le critiquer, mais votre souvenir sera retenu quand même par « on en a fait trop avec cet événement ». Donc, nous portons en nous l'influence de ces groupes sans que ces groupes soient encore existants. Un groupe peut très bien avoir disparu, mais il m'a formé et donc il a formé mon souvenir. Donc ce que je vais retenir va dépendre des différents groupes dans lesquels je me suis construit. Et puis aussi des différents groupes dans lesquels j'évolue. Et tout cela, tous ces groupes constituent d'une certaine manière les groupes avec lesquels je vis une expérience et qui va créer mon souvenir. Donc, le souvenir et la mémoire sont des produits collectifs. À l'extrême limite, la langue qui structure mon souvenir est collective aussi. Donc, ne serait-ce que par là, j'ai une collectivité de la mémoire. C'est-à-dire que si vous vous souvenez de cette conférence, imaginons, c'est en tant que membre du groupe Philopop, pour l'évoquer avec un absent, pour vous en souvenir entre vous. Donc le souvenir individuel que vous aurez de cette conférence est en fait possible par une mémoire collective de celle-ci. C'est parce qu'il y a une mémoire collective de la conférence que vous pouvez avoir un souvenir individuel. Et je crois que vous avez eu une conférence, un topo sur Proust, il n'y a pas longtemps. Voilà, si on regarde précisément la Madeleine, un point qui est assez rarement évoqué, c'est le souvenir de la petite Madeleine, il est possible que parce qu'il se souvient de sa mère et de sa tante. Voilà. Donc, il y a une collectivité du souvenir, même chez Proust, qui est pourtant pensé souvent et réfléchi comme l'écrivain de l'intime. Mais alors, dans ce cas-là, comment on explique que le souvenir nous semble totalement personnel ? C'est ce qu'explique Alvax, dans le texte 3, où, en fait, il donne plusieurs explications. D'abord, quand je me trouve influencé par plusieurs groupes, leur influence se dilue. Donc, elle me semble moins importante. Je l'aperçois moins. Et donc, forcément, on est toujours influencé par plusieurs groupes. On appartient au groupe familial, au groupe professionnel, au groupe amical, et je pourrais multiplier, etc., etc. Et donc, comme on est toujours influencé par plusieurs groupes, l'influence paraît moindre. Mais ce n'est pas parce qu'elle nous paraît moindre qu'elle n'existe pas. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que tant que je fais corps avec le groupe, son influence ne se fait pas sentir. C'est-à-dire que quand ce que je ressens est à l'unisson avec le ressenti du groupe, eh bien, j'ai l'impression que mon souvenir est personnel, alors même qu'il m'a été soufflé par le groupe. Vous voyez ? Je ne pense même pas que mon souvenir peut être collectif, parce que je suis totalement inséré dans le groupe. Je n'ai aucune distance par rapport à lui, et donc le souvenir du groupe est mon souvenir. L'influence du groupe, malgré son influence, il me semble que je suis libre. Donc dans ces conditions, on voit que le rôle de la mémoire collective est immense. Elle fait exister socialement l'individu, puisque l'individu ne va avoir une place dans la société qu'en tant qu'il participe de la mémoire collective. Soit il appartient au groupe qui se souvient, soit il est l'objet du souvenir, et d'ailleurs, on constate que dans les expériences de désocialisation telles qu'elles peuvent être relatées, donc que ce soit l'expérience de la prison, l'expérience des sans domicile fixe, un des éléments qui se perd le plus vite, c'est la conscience du temps et la conscience du souvenir. Que ce soit le souvenir des personnes qui vivent ces expériences, ou que ce soit le souvenir des personnes qui les rencontrent. Donc en fait, la mémoire permet une intégration dans le collectif. Mais la primauté de la mémoire collective conduit également à la réciproque, c'est-à-dire que c'est la mémoire collective qui fait également exister le collectif. Donc c'est ce qu'on va voir dans le petit b, la mémoire fondement de tout groupe social. C'est-à-dire que l'individu ne peut prétendre faire partie du groupe que s'il intègre, consciemment ou non, la mémoire collective du groupe. On peut aller plus loin. Un groupe n'a d'existence en tant que groupe que s'il y a une mémoire collective. C'est la mémoire qui va distinguer le groupe social de l'agrégat. Voilà, si vous l'agrégat, vous allez sur une place en France, tous les individus se rassemblent à un moment donné, mais ils n'ont rien à faire ensemble. Ils ne forment pas un groupe social. Ils forment une masse, un peu indistincte. Justement, ce qui va faire un groupe social, c'est que ce groupe a un passé, a une histoire. Et ce qui paraît évident pour un groupe restreint va poser un plus grand problème dès que je passe à un groupe social un peu d'ampleur. Bien sûr qu'une famille a une mémoire, je me souviens des événements passés avec ma famille. L'idée d'une mémoire de la nation paraît déjà plus étrange. Mais pourtant, pour me sentir appartenir au groupe, je dois partager cette mémoire commune. Et le groupe, pour exister inversement, doit avoir une mémoire. Avec ces deux problèmes, que le groupe est composé d'individus qui ne se connaissent pas, donc qui n'ont pas vécu la même chose, et qu'il y a un renouvellement dans un groupe d'ampleur, il y a un renouvellement incessant des individus. Les individus disparaissent, d'autres naissent, et donc ce renouvellement, voilà. Donc, la mémoire collective est problématique pour l'existence de la nation. Et pour résoudre ce problème, il faut que les différents individus s'approprient la mémoire du groupe. La nation ne peut intégrer les citoyens, les individus, que s'ils reconnaissent qu'ils en font partie. Et comment ils vont reconnaître qu'ils en font partie ? En reconnaissant la mémoire collective comme leur mémoire. Donc en fait, la mémoire, elle stabilise le groupe. Elle stabilise la nation. C'est, d'une certaine manière, ce que dit Renan dans sa conférence assez connue « Qu'est-ce qu'une nation ?». Donc, il faut peut-être rapidement contextualiser, tu en avais parlé, je crois,
oui, de ce qu'une nation. Oui, d'une autre manière, c'est une émission.
Le rôle de cette conférence, enfin, elle est tenue fin du 19e siècle, 1882, et son rôle, un peu, c'est d'affirmer les principes d'une nation républicaine. Après le Second Empire, après la défaite de 71, et face à une Allemagne prussienne qui a une autre conception de la nation. Et donc, c'est de montrer que l'appartenance à la nation ne peut pas être un acte d'autorité pure. Et donc, voilà, Renan dit qu'une nation est une âme et un principe spirituel, et que cette âme, elle est composée de deux choses qui n'en sont qu'une, à savoir le passé et le présent. Autrement dit, le passé commun, pour Renan, c'est la condition sine qua non d'une nation. Parce que c'est le passé commun qui va faire que j'intègre la nation comme composante de mon identité. C'est-à-dire, voilà, c'est parce que je reconnais que telle et telle date qui ont forgé la France sont importantes, que je me reconnais comme français. Donc c'est quelque part, c'est parce que c'est le passé commun qui va faire que j'intègre la nation comme composante. Par ce passé, je me forge une communauté de destin avec des hommes que je ne connais pas, avec les générations passées. Et de ce fait, ça permet de faire perdurer le groupe. C'est-à-dire que je n'ai pas vécu la Seconde Guerre mondiale, et pourtant, je considère que la Seconde Guerre mondiale fait partie de la mémoire du collectif français auquel j'appartiens. Et donc, j'intègre quelque part la Seconde Guerre mondiale comme constitutive du groupe auquel j'appartiens, et donc comme constitutive de mon identité, d'une certaine manière. Donc, on remarquera plusieurs choses. C'est que Renan insiste beaucoup dans son texte sur l'importance des défaites. C'est pour rien, on est après 1870-1871. Et pour lui, les événements douloureux sont bien plus formateurs que les événements joyeux. Donc voilà, c'est pour montrer qu'on peut faire nation après, après le désastre de 1870-71. Donc, et la deuxième chose, c'est qu'ici, on est bien avant la théorisation par Al-Zaks, et donc il y a une analogie constante entre la mémoire collective et la mémoire individuelle. Mais sans être théorisée en tant que telle, la mémoire collective, dans le texte de Renan, revêt une place centrale. Et d'ailleurs, on a la phrase qui est souvent répétée, presque sans vraiment, en perdant son sens, la phrase de Renan, c'est qui apparaît à la fin du texte, hein, les dernières lignes. L'existence d'une nation est, pardonnez-moi cette métaphore, un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de la vie. On l'a souvent répété, mais l'avenir commun qui forge la nation. Mais en fait, pour Renan, l'avenir commun est indissociable du passé commun. Le passé et le présent ne font qu'un. Je ne peux m'imaginer un présent et un avenir commun que parce que j'ai un passé commun et que parce que je reconnais ce passé commun. Donc la mémoire collective, qu'elle prenne la forme de fête, de commémoration, de monument, de lieu de mémoire, fait exister la communauté nationale. Et d'ailleurs, plus on peut même généraliser, la mémoire collective fait exister toute communauté politique. Toute communauté politique. C'est ce que montre Debray, donc Régis Debray, qui est un philosophe français de fin du XXe siècle, c'est ce que montre Debray dans La critique de la raison politique, dans les deux petits textes, texte 5 et texte 6. Alors, j'ai réduit un peu les textes parce que c'est une lecture assez ardue, très référencée, truffée de références, de références, de références, de références, de références de philosophes. Donc c'est pas toujours évident à saisir. Et en fait, l'objectif de Debray, c'est d'analyser les principes qui fondent un groupe politique en général. Donc, il revendique une abstraction, c'est comment se fonde un groupe politique, quel que soit le groupe politique. Et ce qui caractérise un groupe, pour Debray, c'est ce qui est évoqué un petit peu dans le texte 6 au début, hein, l'impossibilité où est un groupe de s'originer en lui-même. C'est-à-dire que ce qui caractérise un groupe politique, c'est ce qu'il appelle son incomplétude. C'est-à-dire que un groupe politique, pour exister, ne peut pas être clos sur lui-même. Il a besoin d'une référence extérieure à lui pour exister. Une référence qui n'est pas du groupe. C'est-à-dire que les membres actuels, les membres effectifs du groupe, ne peuvent se légitimer eux-mêmes en disant « nous sommes un groupe », point. Politiquement, un groupe d'amis, ça peut marcher, mais un groupe politique ne peut pas se dire « bah voilà, nous formons un groupe politique ». Ils ont besoin de quelque chose qui les transcende, qui les dépasse, qui va légitimer le groupe. Donc en fait, ce que montre Debray, c'est la nécessité politique du religieux. Il y a besoin d'une dimension religieuse dans tout groupe politique. Alors pas forcément déiste, hein. Ça peut être le souvenir du fondateur. L'exemple le plus parlant, c'est la référence constante à Lénine quand on est communiste au XXe siècle. On a besoin de la référence à Lénine pour se revendiquer communiste et pour fonder le collectif du groupe communiste. Or, c'est ce que montrent les deux textes 5 et 6, la mémoire collective est toute désignée pour jouer ce rôle d'élément transcendant. D'abord, parce qu'elle oblige les membres à se mettre au niveau du groupe. C'est ce que dit le texte simple. 5. Le groupe qui nous fait ses représentations, donc, qui fait appel à sa mémoire, nous place aussitôt en position d'infériorité, mobilisable d'office et de plein droit. Mais c'est une infériorité exaltante. Le groupe nous demande d'être à la hauteur. Nous sommes tacitement convoqués à l'héroïsme ou au martyr, et voilà, la mémoire du groupe charge chacun de fierté. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, voilà, en faisant référence à la mémoire du groupe, au souvenir du grand Lénine, ça oblige le communiste de 1950, de 1960, voire même de 2020, 2021, en faisant référence au grand Lénine, ça oblige le communiste à être au niveau du grand Lénine. Et donc, ça oblige les membres à se mettre, à s'intégrer dans le groupe. Et puis, cette mémoire collective, elle passe pour être, même si ce n'est pas réel, elle passe pour être, ça c'est le deuxième texte, le texte 6, elle passe pour être l'origine du groupe. Or, se poser comme l'origine du groupe, même si c'est pas vrai, ça c'est un autre problème, se poser pour l'origine du groupe, c'est quand même l'élément le plus efficace pour fonder et souder un groupe. Voilà. Soyez, voilà, Lénine a fondé le parti bolchevique. On oublie tout ce qui s'est passé avant. Lénine a fondé le parti bolchevique, et donc, en faisant référence à la mémoire de Lénine, bah, je me place tout de suite d'autorité, comme, voilà, celui qui est le continuateur de Lénine. Voilà. Sauf que, c'est bien ce que dit Debray dans le texte 6, cette origine, elle est mythique. La mémoire collective, c'est un enjeu, ça devient un enjeu d'une manipulation extrême. Et elle finit toujours par justifier l'ordre social existant, et in fine, du coup, par justifier le pouvoir des dominants. Donc ici, on voit clairement une ambiguïté énorme sur la fonction de la mémoire collective. Certes, c'est une nécessité pour le groupe, mais doublée d'un contrôle social extrême. La mémoire collective, c'est un instrument de contrôle social permettant de justifier toutes les actions. Il n'y a qu'à voir, en France, en 2020 et depuis même les années 90, la récupération constante de la figure de De Gaulle. Voilà. La récupération de la figure de De Gaulle justifie, on est gaulliste parce qu'on est européen, on est gaulliste parce qu'on est souverainiste, on est gaulliste pour tout. Voilà. Donc, voilà, ça permet de justifier toutes les actions. Et pourtant, la mémoire, une émancipation de cette mémoire collective paraît impensable, du fait de la nécessité pour l'existence du groupe. Et même de la nécessité, si on remonte encore un peu plus loin, pour l'individu. On l'a vu. Donc, la seule ligne qu'il s'agirait peut-être de tenir, étroite, serait celle du coup d'une appréhension critique de la mémoire collective. Voilà. Et ça va être du coup, est-ce qu'on peut avoir une appréhension critique de cette mémoire collective ? Est-ce qu'on peut avoir une appréhension dépassionnée de la mémoire collective ? Et donc, ça sera l'objet de ma deuxième partie. Peut-on dépassionner la mémoire collective ? Parce que la fonction intégrative de la mémoire semble ne pouvoir se faire pour l'instant qu'au prix d'une soumission à ce qui est retenu par cette mémoire collective. Je ne peux pas prendre de distance par rapport aux grands événements qui constituent les grands événements de la nation. Donc la mémoire semble déterminer nos cadres de pensée. Il y a donc une forme d'aliénation. Et si je rejette quelque chose que la mémoire a retenu, il y a de fortes chances que je finisse par être rejeté du groupe. Donc, je ne peux faire ça qu'au nom d'un autre groupe. Voilà. En effet, je ne reconnais pas tel événement historique, Austerlitz, comme fondateur de la nation française. Ou je ne reconnais pas, voilà. Mais si je peux ne pas reconnaître Austerlitz comme fondateur de la nation française, c'est parce que pour moi, je me revendique d'un groupe républicain ou un groupe, voire même communiste, qui du coup refuse de s'intégrer à une mémoire napoléonienne. Voilà. Donc, forcément, en tant que membre du groupe communiste, en tant que membre du groupe républicain, je serai obligé de me soumettre à une autre mémoire du groupe. Donc, in fine, il y aura toujours de la soumission. Pourtant, il nous arrive tous, de prendre de la distance par rapport aux traditions d'un groupe, sans pour autant remettre en question notre appartenance au groupe. On refuse de reconnaître à un événement la place que la mémoire collective lui attribue. Voilà, on peut très bien, ça nous arrive régulièrement, à la mort d'un homme, d'un président, où justement on va glorifier ce président, on se dit, bon, voilà, la mort de Chirac, parce que vraiment Chirac était un si grand homme politique, la mort de Giscard. Et ça a fait la même chose à la mort de De Gaulle. Surtout qu'à voilà, à la mort de De Gaulle, voilà, il y a peu de gens qui remettaient en cause son action en 40, mais il y a quand même, en revanche, beaucoup de gens qui remettaient en cause son action de la Ve République. Et qui, pour autant, ne cessaient pas de se sentir français. Donc ça veut dire que c'est quand même possible. Donc, ça veut dire que on refuse un travail critique à l'intérieur de la mémoire demeure possible, quand même. Et si ce travail critique à l'intérieur de la mémoire s'en trouve demeure possible, ça veut dire que la fonction de la mémoire collective change et qu'elle est à examiner. Si vous voulez, jusqu'à présent, dans notre première partie, c'est comme si on avait retenu que la moitié de la leçon très connue de Marc Bloch. Donc Marc Bloch, c'est un historien, et dans l'étrange défaite, qui analyse les raisons de la défaite de 1940, il dit « Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. » Donc autrement dit, pour comprendre l'histoire de France, il faut forcément reconnaître ces deux éléments fondateurs que sont la monarchie, la royauté et la République. Voilà. Donc voilà, on retiendrait que ça, on ne peut pas se départir de ces événements fondateurs du groupe. Mais on oublie que Marc Bloch, il est aussi l'écrivain de l'Apologie pour l'Histoire, qui a un plaidoyer pour la méthode critique en histoire, une mise en garde contre les reprises politiques de la mémoire. Une attaque contre, par exemple, un entre guillemets, journaliste historien, qui à l'époque s'appelle Bainville, qui est d'ailleurs le maître à penser d'un autre journaliste historien en politique du moment. Donc, l'idée, c'est comment peut-on accorder le travail critique et la nécessité de la mémoire collective pour le groupe. Comment peut-on parvenir à un usage critique de la mémoire alors que celle-ci semble nous assigner au groupe. Et donc, premier, est-ce qu'on peut se désabuser de la mémoire? Est-ce qu'on peut, voilà, se déprendre des abus de mémoire? C'est-à-dire que pour se libérer de la dimension aliénante de la mémoire, il faudrait pouvoir identifier ces pièges pour les éviter. Ça veut dire qu'il y a des pièges de la mémoire, et donc on serait abusé par la mémoire. D'où l'idée de se désabuser, comme le remarque mon titre. Donc c'est qu'il y aurait un abus, ou plutôt des abus, selon le titre de Todorov, des abus de la mémoire. Donc c'est le sens du petit livre de Tsvetan Todorov, qui est un philosophe du 20e siècle. Ce philosophe bulgare immigré en France. Donc français, hein, mais voilà. Donc il distingue deux grands mésusages de la mémoire. Donc, les grands mésusages de la mémoire portent sur l'utilisation abusive de la mémoire par les régimes totalitaires. Et ils pointent la première menace. Par une manipulation de la mémoire collective, il y a un effacement de pans entiers de la mémoire. Il y a cet exercice très célèbre, je crois qu'on retrouve dans tous les manuels d'histoire de terminale, où on montre une photo prise au moment de la révolution de 17 et la même photo retouchée par la propagande stalinienne 20 ans après. Et au fur et à mesure des purges, il y a des révolutionnaires qui disparaissent. Donc voilà, on fait disparaître des individus de la mémoire collective. Et donc clairement, c'est la première menace. Et c'est le propre des régimes totalitaires. Façonner en totalité l'individu. L'effacement de certains individus, l'effacement de certains événements, des mémoires. Cet effacement, cette reconfiguration du passé, pour Todorov, elle se retrouve également, donc elle se retrouve bien sûr dans les régimes totalitaires, mais elle se retrouve également dans le culte de l'instantanéité des sociétés contemporaines, des sociétés ouvertes. Nos sociétés, quelque part, elles sont aussi menacées par cet effacement de la mémoire. À force d'être sans cesse rappelé à l'instantanéité par les réseaux. Alors, il ne connaissait pas les réseaux, puisque c'est écrit en 90, lui, il pense à l'actualité permanente, mais alors les réseaux sociaux, c'est encore pire. À force d'être rappelé par l'instantanéité, nous oublions de la mémoire. Donc nous oublions certains événements qui se diluent dans le présent permanent. Donc il y aurait un abus, ici ce serait un abus au sens de viol. On est abusé, on viole notre mémoire. Au point de faire disparaître celle-ci. Mais, à côté de ce premier abus qui nous guette et qui mérite toute notre attention, il y a une deuxième menace, tout aussi grave, qui est l'abus de mémoire au sens trop de mémoire. C'est-à-dire que c'est un trop-plein de mémoire qui nous enfermerait dans une répétition mortifère du passé, un culte de la mémoire, au point de ne plus se sortir de ce culte, de vouloir muséifier ces éléments historiques. Et c'est davantage sur cet abus que se concentrent les deux extraits des textes 7 et 8 que j'ai pris. Entre ces deux abus de mémoire, il s'agit de tracer les contours de ce que Todorov appelle un bon usage de la mémoire. Et c'est ce qu'il montre principalement dans le texte 7, à savoir que on ne peut pas se passer de mémoire, puisque la mémoire est fondatrice non plus du groupe, mais de la culture. Vous voyez, hein, la culture au sens que les ethnologues donnent à ce mot, bref, est essentiellement une affaire de mémoire. Ah oui. C'est-à-dire que pour pouvoir accumuler de l'expérience, pour pouvoir accumuler des savoirs, hein, ce qui est un peu le sens commun de la culture, il faut de la mémoire. Et donc, se départir de la mémoire, oublier la mémoire, vouloir vivre dans un présent permanent, ça nous renvoie forcément à de la barbarie. Voilà. Forcément. L'homme parvient à se civiliser, à développer sa culture, parce qu'il conçoit un temps linéaire, ce dont je parlais tout à l'heure, un temps historique. Et donc il accumule des connaissances. Ce qui veut dire que du coup, l'héritage est nécessaire à toute œuvre culturelle. Mais justement, c'est ce qu'il montre dans la fin du texte 7, hein, le propre de la culture, ce qu'il appelle la culture occidentale, la culture ouverte. Vous voyez, les cultures occidentales ont encore une spécificité, bon, d'abord parce qu'elles reconnaissent les autres cultures, mais surtout, elles ont valorisé, au moins depuis le XVIIIe siècle, la capacité de s'arracher à sa culture d'origine. Les philosophes des Lumières finissent par voir en cette capacité, en la perfectibilité, le trait distinctif du genre humain. Alors, par perfectibilité, il ne faut pas entendre le fait de devenir parfait, hein, c'est le fait d'une évolution permanente, le fait de changer, et donc du coup de sortir de notre milieu. Donc, c'est-à-dire que le propre de la culture ouverte, c'est la capacité à se déprendre de ce dont on hérite. Autrement dit, la mémoire ne doit jamais être sanctifiée. Le progrès suppose l'articulation de la mémoire, d'un côté, avec la liberté. Liberté d'oublier tel événement. Liberté de rejeter. Et donc, il s'agit de voir comment on peut articuler mémoire et liberté. Et pour Todorov, c'est ce qu'essaye de résumer le texte 8, mais c'est un peu plus développé. Pour Todorov, la mémoire doit nourrir le présent sans nous enfermer. Et notamment, l'événement dont on se souvient, la mémoire, doit jouer un rôle d'exemplarité. Ce souvenir du passé doit permettre de juger, de comparer les événements présents. Et il prend l'exemple de David Rousset. David Rousset, c'est un déporté à Buchenwald, qui revient, qui a écrit un des premiers textes, je crois, qui analyse le système concentrationnaire, qui s'appelle d'ailleurs le système concentrationnaire, et donc du coup, voilà, qui était en plus une figure morale de la gauche. Mais David Rousset, au moment où apparaît la dénonciation des goulags, est un des rares anciens déportés de gauche à critiquer l'Union soviétique. Tous les autres, tous les déportés communistes refusent de critiquer l'Union soviétique pour les goulags. Ils disent « mais non, c'est de la propagande, les goulags n'existent pas, etc. » Et Rousset est le seul qui dit « mais non, être fidèle à notre mémoire d'anciens déportés, voilà, c'est aussi reconnaître le présent de ce qui se passe en Union soviétique. » C'est-à-dire que, voilà, on doit utiliser notre événement passé, là, ici Buchenwald, pour juger. Ce qui veut dire que, du coup, on fait des comparaisons et on ne peut plus sanctifier en faisant une comparaison. On ne peut plus garder intouché l'événement mémoriel. C'est-à-dire que la solution paraît évidente, mais elle a des implications importantes. Il ne peut plus y avoir de fétichisation du passé. Ah oui, puisqu'on compare, on fait des analogies, et toute analogie est toujours un petit peu, toute comparaison est toujours, il y a toujours un petit peu des différences. Voilà. Et donc, si on fait la comparaison malgré les différences, c'est-à-dire qu'on commence à mettre à distance notre passé. Et puis, deuxième élément, avec ce rôle d'exemplarité, on n'est pas dans le poncif du « plus jamais ça ». Il faut se souvenir pour que ça ne se reproduise jamais. Non. On est là, ça sert plutôt de critère de jugement des événements qui arrivent. Est-ce que ce qui nous arrive ressemblerait à ce qu'on a vécu à tel moment ? Comment ça se positionne par rapport à ça ? Donc, la mémoire collective, dans ce cas-là, elle peut servir à un progrès du groupe. Notamment un progrès vers plus de justice. À condition de ne pas être fétichisé. Donc, forcément, il y a un travail de mise à distance, un travail critique qui est nécessaire. Pour que la mémoire ne condamne pas le groupe à se renfermer sur lui-même, eh bien, cela suppose une élaboration historique, en fait. Puisque c'est l'histoire qui est la science qui critique le passé. Sauf que le rapport entre histoire et mémoire est loin, très, très loin, d'aller de soi. C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième sous-partie, hein, histoire-mémoire, quelles articulations possibles. C'est-à-dire que la mise à distance nécessaire pour un usage social apaisé de la mémoire se heurte à un problème majeur. Ce problème, c'est la discipline historique dans son existence même. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'histoire n'est pas la continuation de la mémoire. Par d'autres moyens. Pour paraphraser Clausewitz. Le préjugé, ça serait que l'histoire est une réélaboration scientifique de la mémoire. Et on pourrait passer de la mémoire à l'histoire sans réelle solution de continuité. L'histoire, ce serait une mémoire savante, d'une certaine manière. Ce serait ça le préjugé, souvent. Mais, certes, la mémoire est la matière première de l'histoire. Sauf que l'objet de la mémoire et le fonctionnement de la mémoire oppose mémoire et histoire. L'objet et le fonctionnement de la mémoire font de la mémoire et de l'histoire des opposés. C'est le point de départ du courant qu'on a appelé en histoire la nouvelle histoire, à partir des années 70, qui s'est intéressé notamment à l'histoire des mentalités, l'histoire un peu plus culturelle, qui autorise à faire, et donc cette nouvelle histoire justement, c'est elle qui s'est autorisée à faire de la mémoire un objet de l'histoire. Ce sont les premiers, les nouveaux historiens, notamment Nora, à considérer la mémoire non plus comme le point de départ de l'histoire, mais comme un objet qu'on peut analyser historiquement. Alors le projet des lieux de mémoire de Nora, il est titanesque. Hein. C'est 3 tomes, 2000 pages, enfin je crois qu'il y a 4500 pages à la fin, enfin voilà. Et justement, son projet, c'est faire l'histoire des différents symboles qui constituent la mémoire collective de la France. Donc, je sais pas, dans notre mémoire collective, il y a par exemple le drapeau tricolore. Quelle est l'histoire du drapeau tricolore ? Les monuments aux morts. Mais ça va beaucoup plus loin. Il rentre dans certaines idées aussi. Voilà. Et donc vraiment, tout ce qui constitue l'identité de la France, comment s'est construite la mémoire de ça ? Et son point de départ pour faire l'histoire de ce qui constitue la mémoire de la France, c'est de bien distinguer la mémoire et l'histoire. C'est ce qu'il fait dans le texte 9. Voilà. L'objet de la mémoire, vous voyez, donc il développe mémoire et histoire, le troisième paragraphe du texte 9. Loin d'être synonyme, nous prenons conscience que tout les oppose. Et pourquoi tout les oppose ? Parce qu'en fait, l'objet de la mémoire, on a l'impression que c'est le passé. Mais le réel objet de la mémoire, c'est le présent. C'est un groupe présent qui se souvient. Et la mémoire collective est toujours un phénomène actuel. C'est-à-dire que le but de la mémoire collective, c'est faire durer le groupe dans le présent. En fait, quelque part, d'une certaine manière, si la mémoire collective réussissait parfaitement, son rêve, imagine, on personnifie la mémoire collective, son rêve, ce que dit Nora, ce serait de vivre, qu'on vive dans un présent éternel. Que les événements qui sont constitutifs de notre mémoire demeurent éternellement présents en nous. Donc, de fait, l'objectif de la mémoire, c'est le présent éternel. Et le but de la mémoire, d'une certaine manière, c'est toujours de mettre un groupe hors du temps. Il y a une éternisation du groupe. Faire en sorte que le groupe devienne éternel. C'est, là encore une fois, sans viser personne, penser la France éternelle, d'une certaine manière. Fantasmer cette France éternelle. Donc, son but, c'est de renouveler sans cesse un présent. Ce qui, d'ailleurs, explique toujours les crispations dès qu'on touche à la mémoire collective. Parce qu'en fait, quand on touche à la mémoire collective, on touche au groupe présent. Forcément, ça crispe, ça crée des tensions énormes. À l'inverse, voilà, l'histoire, elle, c'est une reconstruction intellectuelle du passé. Ce qui veut dire que la problématisation est constante. On prend toujours de la distance en histoire. Là où la mémoire sacralise, à une dimension religieuse, l'histoire laïcise. Elle désacralise le passé. Donc, c'est le mouvement. On a affaire à deux mouvements inverses. La mémoire, c'est un mouvement d'intégration dans le groupe, quand l'histoire est un mouvement de mise à distance du groupe. Et donc ça, c'est le premier, donc un conflit d'objets entre mémoire et histoire. Un conflit de méthode aussi, ce que dit Nora. La mémoire, c'est toujours, c'est plus loin dans le texte, la mémoire, c'est une dialectique entre souvenir et amnésie. C'est-à-dire que la mémoire déforme le passé pour l'intégrer. Et en plus de cela, elle est inconsciente de ses déformations. On oublie tel élément. On oublie que Mitterrand était vichiste. On oublie que De Gaulle était maurrassien. Voilà. On oublie des choses comme ça. Et à l'inverse, mais on n'est pas conscient de ces oublis. À l'inverse, et donc l'histoire, c'est une analyse de discours. C'est un rapport critique au passé. Ce qui veut dire que c'est la fin du texte, hein. Au cœur de l'histoire travaille un criticisme destructeur de mémoire spontanée. C'est-à-dire que la mission de l'histoire pour Nora, c'est de détruire, c'est de refouler la mémoire. Donc autrement dit, là, si on revient à notre question des fonctions de la mémoire, des fonctions sociales de la mémoire, Nora dirait que la mémoire est utile au groupe à condition d'en sortir. C'est-à-dire que le groupe adulte, le groupe en progrès, devrait se départir de sa mémoire. En tout cas, c'est le sens du progrès, et c'est la tâche quasi historique de la culture occidentale. Parce que, là encore, hein, ce que dit Nora, les groupes autochtones, les groupes primitifs, vivent selon une mémoire authentique, selon un présent éternel, selon Nora. Mais ce que nous, on appelle mémoire collective, en fait, ce n'est pas une véritable mémoire. C'est ce qu'il dit d'ailleurs au début de son texte 9. Au début du texte 9. Il y a des lieux de mémoire parce qu'il n'y a plus de milieu de mémoire. Au fond, on ne vit jamais complètement dans notre mémoire. Notre mémoire est déjà mise à distance. Puisque si nous habitions vraiment notre mémoire, nous n'aurions pas besoin d'y consacrer des lieux. Il n'y aurait pas de lieu puisque la mémoire serait ancrée dans nos gestes. On répéterait une tradition sans même s'en rendre compte. À partir du moment où on prend conscience qu'on a une mémoire, cela veut dire une mémoire collective, hein, j'entends. À partir du moment où on prend conscience qu'il y a une mémoire, qu'on a une mémoire collective, cela veut dire que, du coup, on a mis une distance et qu'il y a déjà une petite élaboration historique. Il ne peut pas ne pas y avoir d'élaboration historique si on sait qu'on a une mémoire collective. Ce qui veut dire qu'en fait, ce que nous on appelle mémoire collective, c'est une mémoire qui a été contaminée par l'histoire. Et c'est ce que montre le texte 10. Tout ce que l'on appelle aujourd'hui mémoire n'est donc pas de la mémoire, mais déjà de l'histoire. Voilà. Même s'il est impossible de se passer du mot, c'est ce qu'il y a après. C'est ce qu'il appelle du coup l'histoire-mémoire, entre guillemets, avec un tiret, histoire-mémoire. C'est-à-dire que quand on est sous le régime de la véritable histoire, il est impossible d'en prendre conscience. Et donc, le culte que l'on voue à notre mémoire, le culte notamment, c'est ce qu'il analyse dans le texte 10, le culte que l'on a de l'archive, de se souvenir, de vouloir garder des traces, eh bien, cela montre que l'on n'est plus dans la mémoire, dans la véritable mémoire. Cela montre que, en fait, c'est une mémoire extérieure qui s'impose à nous. C'est-à-dire que c'est parce que nous ne vivons plus selon le régime de la mémoire que nous éprouvons un besoin impérieux de se souvenir, de faire des commémorations, d'incarner cette mémoire dans des lieux. Moins on vit authentiquement sous le régime de la mémoire, plus on a besoin d'une archive, quelle qu'elle soit. Et de ce fait, la mémoire extérieure qui s'impose devient, hein, c'est à la fin du texte 10, la production indéfinie de l'archive et l'effet aiguisé d'une conscience nouvelle, l'expression la plus claire du terrorisme de la mémoire historisée. Pardon. C'est-à-dire comme cette mémoire, comme c'est une mémoire extérieure, elle n'est donc pas intériorisée. Jusque-là. Donc, on peut s'en départir, normalement, puisqu'on l'a pas, elle n'est pas inscrite en nous. Mais, c'est là où ça devient un peu pervers, comme on lui voue un culte, on la ressent comme une contrainte sociale. C'est-à-dire que du coup, on pourrait s'en départir, mais d'une certaine manière, on n'ose pas. Donc, et contrainte d'autant plus forte qu'elle devient et qu'elle reste la seule chose qui permette de faire France. En fait, plus l'histoire avance, l'histoire au sens discipline historique, hein, plus l'histoire avance, plus elle remet en cause ce que l'on appelait le roman national, entre guillemets. Tous les acquis de l'histoire scientifique amènent à douter du roman national. En plus de cela, à côté de ces acquis de l'histoire scientifique, il y a une mise en crise de la puissance de la France. Depuis la Première Guerre mondiale, en fait, la France n'est plus au centre de l'histoire. Donc la seule chose qui reste pour faire France, voilà, c'est la mémoire. Il n'y a que la mémoire qui nous permette de vivre dans l'illusion qu'on est une grande puissance. Et donc, la seule chose qui fait qu'on fait la France, si on y réfléchit, c'est la mémoire. La France, en fait, c'est à la toute fin des lieux de mémoire, Nora dit « la France est mémoire où elle n'est pas ». En fait, la France n'est même que mémoire. Donc, de fait, la mémoire permet de vivre dans l'illusion d'une France fantasmée. Sauf que cette illusion, elle est mortifère. Elle empêche l'individu de s'émanciper. Et elle empêche, en plus de ça, le groupe de s'adapter au réel. Puisque le groupe français croyant qu'il fait encore partie d'une grande puissance, maintient une armée surdimensionnée, complètement délirante par rapport à la puissance réelle qu'elle représente sur l'échiquier géopolitique. Donc elle empêche le groupe de s'adapter au réel, qui est le réel d'une puissance moyenne, au fond. Et justement, ce que dit Nora, c'est que traiter la mémoire comme objet d'histoire permettrait de sortir du cercle vicieux. Montrer la constitution de la mémoire, ses déformations, ses mythifications, ses mystifications, tout cela permettrait justement d'émanciper les individus. Le but avoué de Nora dans les lieux de mémoire, hein, c'est ce qu'il dit dans le texte 11, ce sont les dernières lignes de cette somme immense des 4500 pages. Vous voyez ? Quand une autre manière de l'être ensemble se sera mise en place, donc une autre manière que la mémoire de la nation France, quand aura fini de se fixer la figure de ce que l'on appellera même plus l'identité, le besoin aura disparu d'exhumer les repères et d'explorer les lieux de mémoire. L'ère de la commémoration, donc l'ère du culte de la mémoire, hein, sera définitivement close. La tyrannie de la mémoire n'aura duré qu'un temps. Donc le but avoué de Nora dans les lieux de mémoire, c'est de mettre fin à cette tyrannie de la mémoire. Sauf que ces textes datent de 84, 80, ouais, les années 80. Force est de constater que le tyran de mémoire, depuis 1984, a encore de beaux restes. Et que l'ère de la mémoire a du mal à se clore. Ouais, voilà. En tout cas, il est loin d'être définitivement clos. Peut-être parce qu'on a voulu un peu trop vite le forclore, cette ère de la mémoire. L'exclure de notre horizon. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, le projet de Noah, il est typiquement ce que l'on appelle une production postmoderne. C'est-à-dire, il arrive à un moment de mise en crise des grands récits. Et il témoigne, les 4500 pages des lieux de mémoire témoignent de cette mise en crise des grands récits. C'est-à-dire que devant un mythe national qui s'essouffle, c'est ça le grand récit là, devant un mythe national qui s'essouffle, il y a une grande entreprise de démystification du mythe national. Vous voyez, on se rend compte que le mythe national s'essouffle et donc on va le déconstruire. On va le regarder comment il s'est produit. C'est-à-dire, le postmodernisme, pour essayer de le définir rapidement, c'est l'état des sociétés contemporaines caractérisé par la désindustrialisation, premier point, et l'informatisation. Et ces deux éléments, désindustrialisation, informatisation, entraînent une reconfiguration du savoir. Et notamment, un épuisement, non seulement des grands récits, mais de tout n'importe quel projet collectif, en fait. Un épuisement de tous les projets collectifs. Il n'y a qu'à voir la crise de l'engagement, qu'il soit syndical, politique, associatif. Voilà, il y a une crise de l'engagement en France depuis un certain temps. Donc ce qui montre bien cet épuisement des projets collectifs. Donc, de ce fait, le problème, c'est que adhérer au postmodernisme, vouloir forclore la mémoire comme ça, c'est peut-être un peu trop optimiste. Penser que l'on peut surmonter le moment mémoire. Rien sur ce qui peut être fait socialement de la mémoire. À aucun moment, Nora ne parle de ce qui peut être fait socialement de la mémoire. Il dit qu'il y aura une nouvelle conception du vivre ensemble qui sera une conception sociale et plus nationale. Okay. Mais qu'est-ce qu'on fait socialement de la mémoire? Il n'en dit, à aucun moment, il n'en dit quelque chose. Sinon, il propose de la regarder comme un entomologiste regarde les insectes, de loin, comme ça, sans aucune passion. Et donc, on peut se rendre compte qu'à vouloir dépassionner la mémoire, en fait, on cherche un petit peu une perfection qui n'est pas humaine. Voilà. Le cheval n'a que faire de la perfection du chien. Donc voilà, on cherche une perfection qui n'est pas la nôtre. On ne peut pas avoir un rapport dépassionné avec la mémoire. Donc en fait, il va falloir trouver une place vivante à la mémoire. Et ce sera l'enjeu de la troisième partie, c'est-à-dire comment on peut avoir une conception de la mémoire qui ne soit pas dépassionné, puisque ça c'est impossible, on vient de le voir, et qui pourtant n'aliène pas l'individu. C'est-à-dire que si on ne peut pas vivre, c'est ce que j'ai appelé les conditions d'une mémoire ouverte, si on ne peut pas vivre d'une mémoire totalement dépassionnée, il n'est pas non plus question de revenir au culte de la mémoire, le roman national, nos ancêtres les Gaulois, etc., etc. D'abord, ça serait une ignorance complète de tous les apports de l'histoire scientifique, ce qui serait un peu dommage, quoi. Régression du savoir importante. Et puis, en plus de cela, une telle mémoire de roman national, nos ancêtres les Gaulois, le Tour de France des enfants, etc., etc., cette mémoire-là, elle a perdu sa dimension unificatrice. Le doute s'est instillé. Le doute, on a soulevé le voile. On a vu que ce n'était qu'un mythe. Donc à partir de là, on ne peut plus revenir à elle. Il va falloir trouver une autre chose. Ce serait vouloir revenir au roman national, ce serait l'équivalent de vouloir revenir au mythe du bon sauvage. Ah, l'homme était naturellement bon, la société le corrompt, quittons la société. Non. Ou ce serait vouloir un âge d'or. Autant de mythes qui ne mènent à rien. Et donc, on ne pourra pas revenir à cette fonction unificatrice de la mémoire. Et pourtant, la fonction de mémoire comme constitutive du groupe résiste. On ne peut pas ne pas avoir un rapport vivant au passé. Sauf que ce rapport vivant ne peut pas être identique à ce qui a été, présenté dans, dans la première partie. Ce rapport vivant au passé, il ne peut pas être le passé comme fondateur d'une nation pour un plébiscite de tous les jours. Il y aura forcément une dimension décevante dans cette nouvelle conception de la mémoire. L'intégration totale dans le groupe est impossible. Mais si une mémoire dépassionnée est impossible, peut-être qu'il peut y avoir une mémoire démystifiée, mais qui resterait fonctionnelle. Et comme l'élément démystificateur, c'est l'histoire, plutôt que d'utiliser l'histoire comme prise de distance par rapport à la mémoire, peut-être faut-il utiliser l'histoire dans la mémoire. C'est-à-dire que, à partir de ces, il s'agirait peut-être d'intégrer l'histoire à la mémoire. Plutôt que de sortir de la mémoire par l'histoire, réintégrer l'histoire à la mémoire. À partir de ce qu'a dit Nora, on a acquis que la mémoire collective est en fait travaillée par l'histoire. Et en plus de cela, deuxième acquis, la mémoire, ce que c'était le point de départ de l'analyse de Nora, c'est une dialectique entre souvenir et amnésie. Et l'histoire, à l'inverse, une analyse de discours. Le mouvement libérateur ne serait-il pas l'inverse ? Plutôt que de se détacher de la mémoire par l'histoire, chercher à reprendre les acquis de l'histoire dans une mémoire nouvellement pensée. Donc, il ne s'agit pas de mettre la recherche historique au service de la mémoire et d'orienter la recherche historique en disant « Non, tu ne fais pas de recherche sur l'action de la France dans les colonies, tu fais une recherche sur De Gaulle, et uniquement De Gaulle, et encore De Gaulle. » C'est pas ça. Il s'agit de ne pas oublier qu'on ne peut pas penser l'histoire sans la mémoire. Et donc, si on ne peut pas penser l'histoire sans la mémoire, ce qui a tendance à vouloir faire Nora un peu de temps en temps, c'est qu'il faut proposer une dialectique entre les deux termes. C'est ce que propose Ricoeur dans son livre un peu somme, La mémoire, l'histoire, l'oubli. Dans le texte 12 d'abord, où le texte 12, c'est un moment plutôt au début de son livre, où justement, il réaffirme, donc c'est écrit en 2004, donc les lieux de mémoire sont clos en 92, et donc dans la décennie qui suit, Nora apparaît un peu comme le pape de la réflexion sur la mémoire. Et Ricoeur prend le contre-pied par rapport à ça, voilà, justement. Il s'agit de réhabiliter un peu la fonction mémoire. Mais, vous voyez, c'est un plaidoyer pour la mémoire comme matrice de l'histoire, donc on ne peut pas faire de l'histoire sans référence à la mémoire. Mais la tentation est alors grande de transformer ce plaidoyer en une revendication de la mémoire contre l'histoire. Et donc, il dit je résisterai à la prétention de faire de la mémoire un simple objet de la mémoire. Donc il s'oppose à Nora sur ce point. Mais je refuserai de me laisser enrôler dans le plaidoyer inverse, donc de mettre l'histoire au service complet de la mémoire. C'est-à-dire que si l'histoire ne peut prétendre échapper totalement à la mémoire, c'est parce que le geste historique et le geste mnémonique, malgré les différences d'objet et de méthode, c'est le même. Quand on se souvient, que ce soit dans la mémoire ou que ce soit dans l'histoire, on archive, on sélectionne. L'oubli, troisième terme du livre, voilà, est nécessaire. Et à l'histoire, il n'y a pas une histoire intégrale. Il y a toujours des événements qui sont passés sous silence. Et il n'y a pas de mémoire intégrale. Il y a tout, voilà, l'oubli est nécessaire et à l'histoire et à la mémoire. Donc, de fait, le geste historique, le geste mnémonique sont le même. Quand on se souvient, on archive, on sélectionne. Or, l'histoire, en sélectionnant, en articulant différents événements, elle entretient du coup une parenté avec la mémoire. Ce qui ne veut pas dire que la mémoire, c'est ce que disait le sens du premier texte de Ricoeur, ce qui ne veut pas dire que la mémoire doit triompher de l'histoire. Il y a des différences, et des différences qui sont essentielles, notamment dans le rapport aux sources, le rapport critique. Mais l'histoire ne peut pas faire de la mémoire une simple province, un simple objet parmi d'autres. Et à l'inverse, décrier le travail historiographique comme sapant les fondements du roman national n'aurait aucun sens. En revanche, l'histoire peut permettre une mémoire qui se met à distance elle-même. C'est ce que propose le texte 13 au début. Alors il est un peu complexe le texte 13. Il est permis de concevoir une histoire qui se servirait des variations imaginatives relevant d'une histoire culturelle, de la mémoire et de l'oubli, comme révélateur à l'égard de potentialités mnémoniques que la quotidienneté dissimule. On pourrait parler à cet égard, c'est surtout la fin, à partir de la fin pour essayer de comprendre le reste, on pourrait parler à cet égard d'historisation de la mémoire. Mais le bénéfice serait inversé au compte de la mémoire. C'est-à-dire que il s'agit de prendre conscience, et c'est ce qu'il dit, une histoire qui se servirait des variations imaginatives relevant d'une histoire culturelle de la mémoire et de l'oubli. Il s'agit de prendre conscience que notre mémoire ne peut s'inscrire que dans des cadres culturels évolutifs et limités. Le cours de l'histoire influence notre capacité mémorielle. C'est-à-dire que la mémoire ne peut se comprendre et s'utiliser socialement que si elle est remise en perspective par l'histoire. L'histoire permet de voir que se souvenir aujourd'hui, avec tout un tas de prothèses, le dictaphone, le téléphone, les réseaux, Wikipédia, etc., et se souvenir en 1980, et se souvenir en 1900, et se souvenir au Moyen-Âge, ce n'est pas la même chose. La mémoire est travaillée par les conditions culturelles et historiques. Et ça, il n'y a que l'histoire qui peut nous permettre de nous rendre compte de cela. Donc, c'est en cela qu'il y aurait une historisation de la mémoire. Pour la mettre à distance, il faut savoir que notre capacité de mémoire et de mémoire collective dépend de l'état culturel et social dans lequel on se trouve. Cet état culturel étant produit historiquement. Donc c'est en cela que l'histoire permet de mettre en perspective la mémoire, de prendre un peu de distance sans sortir. On reste dans une utilisation de la mémoire, mais on a conscience en permanence que cette mémoire est produite par l'histoire. Et donc l'histoire nous permet de nous rendre compte qu'il y a des cadres qui produisent cette mémoire. À partir de là, c'est ce que montre le texte 14, pardon. Il y a une indécidabilité au niveau de la priorité qu'on doit donner entre histoire et mémoire. On ne peut pas dire l'histoire est plus importante que la mémoire, on ne peut pas dire la mémoire est plus importante que l'histoire. Mais il y a un travail constant de va-et-vient entre la mémoire et l'histoire. C'est-à-dire que ça nous permet de nous rendre compte et ça permet de nous rendre capables d'intégrer la mémoire collective sans y être soumis. Ce mouvement de va-et-vient, cette dialectique entre mémoire, histoire, histoire, mémoire, ça permet d'intégrer la mémoire collective sans y être soumis, sans y être écrasé. Et donc, ça participe de la construction d'un individu capable, dit Ricoeur, donc capable d'agir, d'un individu émancipé. Et ça participe aussi de la construction d'une collectivité beaucoup plus ouverte, puisque j'ai conscience que la collectivité évolue, il n'est plus question de se souvenir d'une France éternelle. J'ai conscience que la collectivité France est le produit d'une histoire. Et quand je me souviens de la collectivité France, donc quand je me souviens collectivement de ce qu'est la France, j'ai conscience que cette collectivité a été travaillée par 30 000 ans d'histoire. Donc, ça participe donc d'une construction de soi, d'une construction de la collectivité beaucoup plus ouverte. Et même, ça permet aussi d'avoir un autre regard sur l'histoire. Ce que montre la fin du texte 14. À l'inverse, l'histoire, en assumant sa dimension mémorielle, sans se soumettre à la mémoire. Il ne s'agit pas de se soumettre à la mémoire collective. Il s'agit de savoir que quand on fait de l'histoire, il y a toujours un fond de mémoire qui traîne. On, ne serait-ce que par goût. En fait, on ne fait pas de l'histoire comme ça. On fait de l'histoire par goût du passé, donc il y a forcément un fond de mémoire qui traîne. Et donc, l'histoire, il faudrait que l'histoire assume sa dimension mémorielle. Ça permettrait de révéler une part inavouée de son travail. À savoir, cette part inavouée de son travail, c'est la conservation, par-delà la critique, qui est nécessaire, hein, mais au-delà de la critique historique, il y a l'idée de conserver ce qui a été. Et cette conservation de ce qui a été permet en fait le travail de deuil de la communauté. L'histoire, si elle assumait cette dimension mémorielle, permettrait à la collectivité de faire le deuil de son passé, et donc, principe de faire le deuil, de continuer à aller de l'avant. Mais pour ça, il faut que l'histoire assume une part de mémoire. Or, jusqu'à présent, les historiens ont tendance à se penser comme justement bien distincts du travail de mémorial. Autrement dit, la mémoire collective historisée, ce serait la condition pour développer des capacités réellement humaines. C'est vraiment le sens et la conclusion du texte de Ricoeur. De ce fait, la mémoire est au fondement d'une redéfinition de la culture. C'est-à-dire que, par cette nouvelle appréhension de la mémoire collective, se définit un nouveau rapport au groupe. Et c'est l'enjeu de ma dernière partie, hein, comment peut-on hériter de la mémoire du groupe ? L'historisation de la mémoire, c'est un concept très particulier, puisque c'est une mémoire distante à elle-même. On prend de la distance par rapport à la mémoire, mais on reste malgré tout dans la mémoire. Voilà, comme un peu une forme de schizophrénie. Du coup, on est dans la mémoire, mais on prend de la distance par rapport à la mémoire. Comme si il y avait une distance à la mémoire qui travaillait en permanence à l'intérieur de la mémoire, pour être reprise par elle-même après. C'est un travail très étrange. Je parlais de schizophrénie. Hein. Mais au fond, ce n'est qu'à cette condition que la mémoire peut être fondatrice d'une véritable culture. Parce que ce n'est qu'ainsi qu'on peut hériter d'un groupe. Recevoir un legs, recevoir un héritage, ce n'est pas le conserver intact. Quand on reçoit un héritage, quand on reçoit un legs, on le fait sien. On peut prendre l'exemple d'une maison. Vous recevez une maison en héritage, vous allez l'habiter. Vous allez la faire vôtre. Donc on hérite toujours de ce qui est différent de soi. Et oui. Et cette différence, elle doit être assumée. Et elle va nous changer. Donc la mémoire collective, c'est une injonction à hériter du groupe. Puisqu'on hérite du passé du groupe. Et donc du coup, il faut recevoir une culture qui n'est pas la nôtre et que l'on doit continuer. Mais continuer, justement, ce n'est pas répéter. Donc, on est fidèle à la mémoire collective et à son injonction d'hériter qu'à la condition de rechercher et de cultiver ce qui est autre en elle. C'est ce qu'essaye de démontrer Derrida dans le texte qui est L'autre cap. Comme toujours, hein, Derrida, c'est un philosophe très contemporain qui a une certaine importance dans plusieurs domaines aujourd'hui. Et comme toujours, les textes sont très sinueux. Il semble parler d'une chose et puis il fait 15 détours avant d'arriver précisément à ce dont il parle. On peut peut-être partir, c'est le texte 15 que l'on a, on peut peut-être partir d'un de ces exemples sur l'Europe. Être dépositaire de la mémoire de l'Europe, c'est se souvenir que l'Européen est essentiellement trans-européen ou non-européen. En fait, voilà, l'Europe, elle est constituée de ce qui n'est pas européen. Et être dépositaire de la mémoire de l'Europe, c'est se souvenir de ça. De se souvenir que l'Europe est fondée par ce qui n'est pas européen. Et de ce fait, il s'agit du coup de cultiver ce qui est étranger à notre mémoire pour faire de la mémoire réellement quelque chose de vivant. Donc il y a certes un devoir de mémoire, un appel à la responsabilité. Voilà, vous voyez, il n'arrête pas de répéter dans son texte le devoir de répondre à l'appel de la mémoire européenne, ce devoir, le même devoir, le même devoir, le même devoir. Donc il y a un appel à la responsabilité. Mais la responsabilité que nous assigne la mémoire collective, c'est de s'ouvrir à l'autre, c'est de s'ouvrir au nouveau. S'ouvrir au nouveau au nom de ce qu'on doit conserver. De ce fait, la mémoire ne nous impose pas une tradition. Elle nous impose, au nom de cette tradition, un écart à elle-même. C'est-à-dire que au nom de la mémoire, nous devons faire un écart à la tradition pour être fidèle à la tradition. Être fidèle à l'héritage français, c'est justement s'ouvrir à autre chose que la France. Et continuer la tradition française, c'est continuer la tradition d'hospitalité de la France et donc de s'ouvrir à ce qui n'est pas la France. Dans ces conditions, la mémoire collective n'est plus seulement le ciment du groupe. Elle permet au groupe de se réinterpréter, de se réécrire, de s'ouvrir à du nouveau. Donc c'est le fondement d'une culture créatrice de nouveautés. On se rapprocherait presque du sens allemand. En allemand, il y a deux mots pour la culture. Il y a Kultur et Bildung. On se rapprocherait du sens Bildung, formation. Une culture qui réellement nous crée nouvellement. Alors, le texte de Derrida peut sembler une divagation de philosophe un peu perdue dans les nuées. Voilà. On est dans le ciel des essences, on est bien. Et ça peut sembler aussi un vœu pieux face à certaines crispations ou compulsions de répétition, toujours le même roman national. Néanmoins, contrairement à ce qu'on peut croire quand on lit le texte, il y a des traductions pratiques, et même à une échelle assez vaste. Par exemple, on peut penser au travail de Patrick Boucheron, L'histoire mondiale de la France. L'histoire mondiale de la France, c'est exactement cette conception de la mémoire collective. C'est-à-dire qu'il part des dates qui font la mémoire collective de la France. 1515, 1789, j'en passe, il y en a plein. Ça commence à moins 3000, ça finit à 2004, donc voilà, 1989, 1968. Toutes les dates de la mémoire collective y passent. Sauf que ces dates de la mémoire collective, elles sont creusées, elles sont mises en perspective. D'où la notion d'histoire mondiale de la France. Et quand je parle de l'histoire mondiale de la France, donc Boucheron, voilà, il est professeur au Collège de France, il a une certaine autorité dans le champ de l'histoire, et c'est un best-seller, hein, c'est un des livres d'histoire les plus vendus de ces dernières années. Donc ça montre bien, et clairement, même s'il ne se revendique pas, parce que je pense que c'est un peu explosif, il poursuit ce que propose Derrida. Donc c'est peut-être pas si abstrait que ça, en fait. Pour conclure... J'ai peut-être été un peu long. Non, c'est bon. Pour conclure, on était parti de la question comment la mémoire collective peut-elle à la fois être nécessité et instrument de soumission ? Elle est nécessité parce qu'elle est constitutive, du groupe, mais également parce qu'elle est un cadre pour penser n'importe quelle mémoire. Toute mémoire est collective. Dès lors, il s'agissait de voir comment construire un rapport émancipé à la mémoire collective. Or, un rapport trop critique, trop distancié, trop froid, produisait l'effet inverse de ce qui était voulu, et produisait comme une forme de retour du refoulé. Et donc, la solution que je proposais, finalement, c'était d'installer de la distance à l'intérieur même de la mémoire, qui était la condition pour une identité, une culture, qui ne soit pas fermée sur elle-même. Et peut-être aussi, la condition pour éviter le déclin de la communauté. C'est-à-dire, le déclin, contrairement à ce que veulent dire les déclinistes, ne serait pas d'oublier une mémoire éternelle, une France éternelle. Le déclin serait de se replier sur elle.
Merci. À vos questions. Allez-y.
Peut-être passer aussi un peu vite sur certains points, donc je peux en revenir voir s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises.
Allez.
Pour ouvrir pendant un long moment dans votre exposé, effectivement, on va arriver à l'aborder tout à fait à la fin. J'ai eu en tête le projet d'Europe, tel qu'il se construit, enfin, bon, la politique, c'est de mettre en place. Et c'est vrai que vous l'abordez. Avec des retards à la fin. Et en fait, je me demandais comment utiliser cette comparaison entre l'histoire, la mémoire, comme outil politique pour construire l'Europe. À supposer que ce soit une bonne idée, mais on sentait bien que la notion de nation commençait à être un peu obsolète dans le propos. On sentait qu'il y avait besoin d'élargir un peu le cercle. Alors, on peut aller même éventuellement au-delà de l'Europe, mais on est avec l'Europe dans un cas présent, concret, de tentative. Il y a peut-être d'ailleurs aussi des réminiscences plus anciennes, il y a eu une certaine Europe, enfin, des échanges en Europe, une autre Europe avant les nations, peut-être même, enfin, avant le renforcement des nations. Donc voilà, ces notions-là que vous nous avez présentées, comment pensez-vous que les politiques les utilisent pour essayer de construire une Europe?
C'est très intéressant parce que, de fait, Derrida, il y a toute une digression aussi sur l'importance, la trop grande importance que prend l'économie, que prend le capital, pour qu'on puisse pleinement hériter d'une mémoire de l'Europe. Je pense que le problème, peut-être, c'est que les politiques font une utilisation de la mémoire au sens figé, en fait. Et donc, ils ont encore l'idée d'une mémoire nationale. De fait, ils n'ont aucun des politiques, même les plus pro-européens, si on prend le parti le plus pro-européen en France, qui est la REM, si vous prenez tous les discours de Macron sur les commémorations, il est encore dans une conception de mémoire au sens très classique. De presque la France éternelle. D'ailleurs, il est un grand fan de Peggy, etc. Donc, je pense qu'il y a ce premier danger qui essaye de se construire à l'échelle européenne, qui est d'essayer de construire une mémoire collective européenne au sens, comme on avait construit la mémoire nationale française, et d'essayer de transposer, ce qui ne marche pas du tout, ce qu'essayent de faire, par exemple, les souverainistes. Les souverainistes, voilà, les racines chrétiennes de l'Europe. Voilà, pour prendre un thème politique qui revient un petit peu sans cesse dans le débat. Et donc ça, c'est une erreur, parce qu'on voit que ça, on a vu que ça menait à l'impasse. Et à l'inverse, il y a l'Europe technocratique qui, du coup, s'est totalement assise quasiment sur l'idée de mémoire, pour qui ça n'intéresse pas, qui ne cherche pas réellement à produire une mémoire collective de l'Europe. Alors, pourquoi ? Derrida dit parce que... le dit pas parce que c'est toujours sinueux, sous-entendu, parce que le problème, c'est que l'Europe est un projet économique, et purement économique, et de ce fait, presque contre-culturel. On pourrait aussi dire que peut-être que le groupe supranational n'est plus quasiment un groupe politique. Que si on voulait faire de l'Europe une Europe politique, il faudrait penser la communauté politique Europe, qu'on est très loin de penser. Tant qu'on ne pense pas à la communauté politique Europe, on ne peut pas avoir une mémoire collective européenne. Voilà.
Aux États-Unis, ils arrivent, c'est des États fédérés, ils arrivent à avoir cette double...
Justement, mais parce que...
Est-ce que c'est la mémoire politique qui empêche qu'on aboutisse au fédéralisme ? Il y a une Europe et puis il y a des régions, Normandie, Rhénanie, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait le discours des hommes politiques bloque là-dessus ?
Alors,
la mémoire politique qui fait ça, parce qu'aux États-Unis, ça c'est très bien fait. Alors, évidemment, ce n'est pas la même histoire, je suis d'accord, mais le pouvoir de l'argent est...
Oui, mais aux États-Unis, il y a la nation américaine est première.
Et pourquoi la nation européenne n'est pas première?
Ah bah parce qu'il y avait ça, pour le coup, on est le produit de notre histoire. Il y avait des nations, bon, voilà. Voilà. C'est ce que dit Benedict Anderson, hein, les communautés nationales sont imaginées. Donc on pourrait très bien imaginer une communauté nationale européenne. Mais pour cela, ce que dit Benedict Anderson, c'est qu'il faut que les cadres de pensée précédents s'étiolent. C'est-à-dire qu'il y a l'imaginaire national. La nation a été rendue possible parce qu'il y a une crise religieuse qui servait de premier cadre, parce qu'il y a une mutation économique formidable à la fin du Moyen-Âge, et parce que il y a une autonomisation des langues. C'est-à-dire qu'on arrête de parler latin entre élites, pour faire court. Et donc tout ça rend possible une imagination d'une autre collectivité et rend possible la création d'une imagination nationale. Donc, pour créer une communauté politique européenne, il faudrait qu'on se départisse des cadres de pensée de la nation, donc de la langue, voilà, ça fait beaucoup quand même, et qu'en plus émerge quelque chose d'autre. Je dis pas que c'est pas possible, je dis que ça me paraît lointain. Surtout que parmi les cadres de pensée nationaux, voilà, le capitalisme est fondateur de l'État-nation. On est aussi loin, me semble-t-il, de sortir du capitalisme. Donc, voilà. Et en tout cas, les instances européennes qui servent d'embryon de collectivité européenne sont loin de sortir de ces cadres qui forment l'imaginaire national. Je ne sais pas si ça répond...
Allez-y. Puisque vous parliez des États-Unis et de la contribution de la nation américaine, ne pensez-vous pas que la guerre de sécession a été l'événement capital qui a soudé les États qui étaient avant la dépendance? Au point que le cinéaste Griffith, naissait dans ce film très dur,
Naissance d'une nation,
qui montre que la guerre de sécession a été le point de bascule. Avant, les Américains se considéraient comme membres de l'État de Virginie, de Géorgie, etc. Et après la guerre de sécession, ils ont pris conscience. Semble-t-il, je ne suis pas historien, c'est ce que j'ai entendu dire, ils ont pris conscience. Là, la nation américaine s'est vraiment construite à partir des années 1860.
Alors, je ne suis pas historien non plus, donc je vais essayer de répondre à partir de ce que je connais. Clairement, je pense qu'il y avait déjà une nation américaine avant. L'émergence de la nation américaine, elle naît dans la guerre de décolonisation contre l'Angleterre, malgré tout. Voire même avant, dans la guerre franco-anglaise des années 1760. Mais là où je vous rejoins tout à fait, c'est clairement il y a eu un bond dans l'idée nationale après la guerre de sécession. Mais c'est aussi tout le travail de réconciliation qui a lieu après une guerre civile. Tout comme je pense que l'idée qu'on se fait de la France a fait un grand bond après ce qu'il faut bien appeler une guerre civile qui a eu lieu entre 40 et 44. Et tout le travail qui a eu lieu dans les années d'après-guerre ont permis de ressouder peut-être d'une certaine manière la collectivité nationale.
Quatre siècles,
oui.
Mais avant, l'identité, comme vous précisiez peut-être, c'était une langue plus commune, peut-être le latin, et une religion peut-être plus commune, qui fait que l'Europe se sentait plus... Il y avait plus de destins communs que maintenant, avec des nations qui ont des histoires qui se sont séparées.
Alors, il y avait plus de destins communs à condition de penser que les seuls qui se sentaient un destin commun, c'était les élites, quand même.
Oui.
C'est-à-dire qu'une des grandes avancées de la nation, c'est d'intégrer
le peuple.
Quand même. Et donc, voilà. Avant, certes, les élites, il y avait presque une élite cosmopolitique, surtout dans la religion. Parce que la noblesse, était quand même très attachée à un sujet. Donc, il n'y avait quasiment pas de communauté imaginaire. C'est-à-dire que, voilà, les chevaliers, ils étaient rattachés au seigneur, qui était lui-même rattaché au duc, etc., etc. Donc, il n'y avait quasiment pas d'imagination. La féodalité fait qu'il n'y a pas besoin d'imagination. Voilà. Ou peu.
Et
J'interviens. Parce que tu as beaucoup parlé de Pierre Nora. Moi, il m'a semblé que Pierre Nora, il a construit toute son œuvre un petit peu contre Renan. Et dans la mesure où Renan, Qu'est-ce qu'une nation, lui, il a beaucoup insisté sur le fait que, effectivement, comme tu l'as montré, c'est la mémoire qui va fonder l'unité d'une nation, mais il insiste aussi beaucoup, Renan, sur le fait que cette mémoire doit évacuer tout ce qui peut, en quelque sorte, remettre en cause l'identité de la nation. C'est-à-dire, par exemple, les études historiques, c'est mauvais. Il y a, les études historiques dissolvent, au fond, cette mémoire commune, c'est une mémoire affective qui est forcément sélective. Et donc, effectivement, il faut construire un roman. Il faut mythifier le passé. Et on va refouler tout ce qui a pu être cause de conflit. Et c'est vrai que, par exemple, l'histoire est utilisée au service de la mémoire. Par exemple, les enfants, avant la guerre 14, ben, ils étudient des livres d'histoire de la Lys où on réconcilie les deux France, celle de l'Ancien Régime et celle de la Révolution française. On construit toute une unité imaginaire. Hein. Mais en même temps, tout de même, il faut bien reconnaître que ce n'est pas purement imaginaire non plus, parce que avec la, disons, l'instauration de la Troisième République, il y a aussi la conscription, il y a l'impôt commun, la langue commune, il y a l'école.
Oui.
Tout ça, ça, c'est pas que purement imaginaire. Il y a toute une, il y a tout de même institutionnellement, disons toute une politique qui va tout de même faire en sorte que celui qui vit à Marseille et celui qui vit à Brest, ils finissent, alors qu'ils n'ont pas du tout les mêmes origines, finissent par se sentir quelque chose de commun, ne serait-ce que parce qu'ils vont au service militaire, ils vont à la même école, etc. Et ça, toi-même, bon, c'est peut-être en France le plus caractéristique.
En tout cas, c'est ce que dit Nora.
Oui. Et alors, c'est vrai, Nora, lui, je pense qu'il réfléchit un peu contre cette instrumentalisation de l'histoire par la mémoire. Et justement, lui, il assume le fait que les études historiques sont dissolvantes. Elles critiquent. Mmh. Hein, elles sont effectivement ce qui met à jour, au fond, ce qui détruit le mythe. Hein.
Oui. Alors, mais d'ailleurs, Nora, c'est un texte que j'avais prévu. Puis après, l'exemplier était un peu gros, donc il y a certains textes que j'ai... voilà, il le dit clairement, Nora. La nation de Renan est morte et ne reviendra pas.
Voilà. Donc c'est clairement.
Je pense que avant d'être construit contre Renan, même si c'est construit aussi contre certaines idéologies. C'est aussi une volonté de
le roman national.
Non seulement le roman national et inversement utilisation de la mémoire, notamment par les communistes aussi. C'est un livre qui est très clairement tourné pour une conception libérale de
Furet. Donc.
Oui, voilà, c'est assez proche de. Je ne sais plus si Furet est intervenant dans les lieux de mémoire, mais en tout cas, ils sont proches, oui, clairement. Néanmoins, donc oui, clairement, et Renan assume le caractère sélectif du roman national. Je pense quand même que ce dont tu parlais sur les institutions, en fait, la Troisième République, elle force la mémoire. Elle force l'imagination, d'une certaine manière. Mais la communauté reste quand même imaginaire.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais il y a un support très fort.
Ah oui. Oui, ça va, clairement. Ouais, y a pas... mais oui, clairement, Nora... Et c'est pour ça que je disais que Nora, en ça, l'œuvre de Nora était clairement postmoderne. Elle est possible parce que la nation s'essouffle à un moment donné. Le grand récit collectif de la nation s'essouffle. Et donc, Nora, d'une certaine manière... démythifie.
Et peut-être aussi parce qu'il envisage une sorte de monde qui dépasse les nations, une Europe, etc. Et peut-être,
oui, tu le verrais du coup comme un précurseur de la fin de l'histoire, quasiment, de Fukuyama.
C'est un peu dans cette époque-là, tout de même.
Oui.
Et puis, effectivement, pendant un certain nombre d'années, dans les années 80-90, il y avait une sorte de valorisation d'idées d'Europe, qui s'est malheureusement de fait effondrée, hein,
oui.
Parce qu'effectivement, c'est une Europe qui s'est construite uniquement sur la base d'un marché, et un marché, ça n'unifie pas.
C'est en cela que le texte de Derrida est vraiment intéressant. Le texte de Derrida, il date de 90, donc il est juste après la chute du mur, et c'est le début du virage de Derrida qui a toujours été un peu éthéré, flottant comme ça, et du virage politique de Derrida. 2-3 ans après, ça va être le premier à réhabiliter Marx. Et voilà. Et je pense que l'autre cap, c'est déjà le début de ce virage politique où, justement, il met le doigt sur le problème d'une Europe construite uniquement sur le marché, qui, de fait, ne peut créer une nouvelle culture.
Il faut bien reconnaître aussi une chose, c'est qu'au départ, l'Europe, c'était une Europe restreinte à quelques nations. Et là, on envisageait une Europe fédérale. Et puis à partir du moment où elle a été élargie brutalement, sans vraiment tellement consulter les peuples, il faut bien le dire, à 25-26 nations, bah, inévitablement, vu la grandeur et le manque de délimitation, c'est devenu une sorte de grand marché. Où...
Surtout, l'élargissement a été fait uniquement pour des raisons économiques.
C'est-à-dire ça n'a pas du tout contribué
à
envisager une sorte de communauté politique. Ah non, non, pas au départ, j'ai pas dit ça.
La zone de libre-échange, c'était l'AEMU. Maintenant, c'est vrai aussi que l'élargissement de l'Europe a bien mal le projet politique. Sachant que je me souviens qu'il y a 30 ans, c'était certains hommes politiques qui étaient anti-européens, qui étaient nationalistes anti-européens, je pense à M. Pasqua, par exemple, qui poussait à l'élargissement de l'Europe pour précisément permettre cette dissolution dans une zone qui ne serait que de libre-échange. Ça, c'est mes souvenirs, si vous êtes complètement. Mais je pense que ça donne quelques nuances par rapport à ce que vous avez dit.
Je vois pas vraiment la. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit, il me semble, parce que même quand il y avait quand il y avait un projet politique, ce projet politique a toujours achoppé justement sur le ciment du groupe que pourrait constituer la mémoire. Je vois pas trop la différence par rapport à ce qu'on a dit. On a peut-être été un peu vite sur certains points, mais.
Ah non, c'est sûr.
Oui, bah c'est... Qu'il y ait un projet politique, c'est indéniable. Mais que ce projet politique ne fasse pas une communauté politique, voilà. C'est-à-dire que, quelque part, dans la nation, il y a une communauté politique. Voilà. Et on... indissociable souvent du projet politique. Il y a des projets politiques qui ne s'incarnent pas dans des nations. L'exemple le plus flagrant d'un projet politique qui ne s'incarne pas dans des nations, c'est la Troisième Internationale. C'est un projet politique qui, justement, a pour but de dépasser les nations. Prolétaires de tout pays, unissez-vous. Donc, il peut y avoir des projets politiques qui ne s'incarnent pas dans une nation. Néanmoins, pour faire communauté politique, il faut quelque part il faut un groupe qui se sente soudé. Ce qu'a réussi totalement à faire justement la Troisième Internationale, au prix d'une récupération de la mémoire des fondateurs, etc. Ce que ne réussit pas à faire l'Union européenne. Et de fait, malgré le projet politique, il ne me semble pas qu'on fasse une communauté politique avec les Européens.
Enfin, oui, c'est ça le problème, de fond.
Il y a les députés européens, mais... Il y a les députés européens.
Oui.
Ça, c'est le comité politique.
Ah, ce qui...
Alors, c'est
là, on touche à qu'est-ce qui définit une communauté politique. Voilà. Est-ce que si ce qui définit une communauté politique, c'est un parlement, ça veut dire qu'une entreprise est une communauté politique, puisque le conseil d'administration, c'est le parlement de l'entreprise. Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise n'a pas un rôle politique à jouer, mais on ne peut pas considérer que c'est une communauté politique, l'entreprise. Vous voyez ? Donc le Parlement ne va pas...
Peut-être, mais
ce
n'est pas une zone de
libre-échange. Il y a un projet politique. C'est ce que la distinction que j'essayais de faire, c'était la distinction entre projet politique et communauté politique. Je sais pas, on pourrait très bien imaginer, il y a par exemple un projet politique de panafricanisme qui est certes en train de s'essouffler.
Il peut y avoir aussi un projet politique.
Il est très faible. On s'en est aperçu par exemple au moment des négociations du Brexit, les États européens ont fait bloc et les négociations ont été dures, certes, mais l'Europe n'était pas désunie. Il y avait quelque chose de commun aussi. Pas beaucoup, mais je crois qu'il ne faut pas l'ignorer complètement. Il y avait une petite amorce commune.
Oui. De fait, à force de décisions communes, de lois, il y a quelque chose qui se crée. Mais qui, il me semble, est loin de constituer une communauté pour laquelle, pour reprendre l'exemple que je disais au début, la nation, même si c'est un lien imaginaire, fait qu'on est prêt à mourir et à aller à la guerre pour la nation. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui soient prêts à mourir pour le projet européen aujourd'hui.
Mais c'est ça, en fait, ce qui compte. Ce qui compte réellement, c'est que dans le tréfonds que les hommes se sentent pleinement faisant partie d'un destin commun. C'est ça qui est le plus important, parce qu'il peut y avoir des hommes politiques qui, dans les hautes sphères, effectivement, décident ensemble d'un certain nombre de choses. Mais si ce n'est pas ressenti comme tel aussi par les peuples, ça n'a pas vraiment de portée. C'est ça le problème.
Et je suis d'accord que plus personne n'est prêt à mourir pour le projet français non plus. Et qu'il y a une crise de l'idée nationale, il n'y a aucun problème. Mais justement... Ce que j'essayais de dire, c'est que on ne sortira pas de la crise en voulant réhabiliter un roman national et une mémoire de France éternelle.
Nora, l'ère de la commémoration sera définitivement close. La tyrannie de la mémoire ne va durer qu'un temps. On a besoin du passé pour vivre. On a besoin de se remémorer. On a besoin.
Oui. C'était justement le sens de la crise. C'était justement. Comment? Oui, c'était un peu le sens de la critique que je faisais à Nora, c'est que si il annonce ça en 80, alors je crois que c'est le troisième tome, donc ça doit être 80-90, ça fait quand même 30 ans que la mémoire collective doit se clore, et puis on attend toujours, et au contraire, il y a plutôt une flambée de culte mémoriel plutôt qu'un déclin. Donc, clairement, les historiens sont pas très connus pour être des bons prévisionnistes, mais... Il y a peut-être aussi un problème dans son analyse. Il manque quelque chose. Et il manque le besoin de mémoire collective.
Oui, puis aussi, en même temps, la mémoire, quand tu l'as montré, la mémoire, c'est pas quelque chose de figé. C'est peut-être quelque chose qui se réinvente en fonction du projet politique que l'on a. Par exemple, je vais faire du Sartre. Hein, parce que dans L'être et le néant, Sartre montre, par exemple, qu'au moment où les Américains entrent en guerre aux côtés des Français en 1917... Eh bien, on parle de Lafayette. Nous voilà. Il y a le culte de Lafayette qui ressort. Et comme il le dit, si les Américains étaient partis en guerre du côté des Allemands, ils auraient trouvé dans leur passé de quoi alimenter aussi un thème nouveau. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que le passé, il est constamment réinventé, au fond, par le futur, par le projet qu'on a. Du futur, en fait.
Justement, est-ce que le discours historique, scientifique, est utile, c'est ce que dit Nora,
même Régis Debray, est utile pour recadrer la mémoire collective. Alors je prends un exemple douloureux qui est le colonialisme ou l'esclavagisme, par exemple. Eh bien, on a l'impression qu'il y a les tenants de l'histoire qui disent oui, certes, il y a l'esclavagisme, mais il y a ces histoires. Et puis ceux qui sont dans la mémoire collective douloureuse disent non, il y a que l'esclavage, c'est
C'est...
Cette opposition, c'est dialectique, on dit, là, se pose vraiment un temps.
Alors, celui qui, justement, essaye de. Justement, faut le, ce que vous appelez le recadrage, il faut faire attention de ne pas considérer la mémoire comme l'objet. Et donc, en fait, l'histoire scientifique, c'est ce qu'essaye de proposer Ricoeur. L'histoire scientifique est utile si elle. Et si elle s'intègre à la mémoire. C'est-à-dire que dans la mémoire, je me souviens que ce qui est constitutif de ma mémoire collective, en fait, est le produit d'une histoire. D'ailleurs, c'est comme ça, mais Ricoeur est, je pense, quelqu'un, c'est comme ça, à mon avis, qu'il relie Nora. Lui, mais de fait, il tire Nora très très fort du côté de la mémoire, ce que n'est pas Nora, du coup, ce que j'ai essayé de montrer. Mais Ricoeur, il retient, bon, forcément, dans les 4500 pages des lieux de mémoire, on retient ce qu'on veut. Il retient, justement, l'idée de, un petit peu, mettre un peu à distance la mémoire, et il oublie le côté de s'en départir. Et lui, il garde, non, il ne faut pas s'en départir, il faut justement que la mémoire intègre cette dimension critique de l'histoire. Et il dit, un moment, entre histoire et mémoire, on ne peut pas trancher. Les deux sont fondamentaux. Fondamentales. Les deux sont fondamentales. Et au fond, c'est au lecteur de prendre ce qui l'intéresse. Le lecteur, il va recevoir, le lecteur d'histoire, il va en faire quelque chose. Il va élaborer nouvellement les apports de l'histoire pour reconstruire sa mémoire.
Oui, et Ricoeur, il se sert beaucoup de la psychanalyse.
Pas trop dans la mémoire, moins dans l'histoire de la mémoire.
Il y a des passages.
Il y a quelques passages au début, notamment où il compare les deux.
À la fin, concernant l'oubli.
Sur l'oubli,
oui. Et donc là, effectivement, il y a tout. Comme s'il y a un travail sur soi, sur sa propre mémoire, permet, au fond, aux hommes de dépasser ce qui a été douloureux, etc. Enfin, toujours ces thèmes qui reviennent constamment.
Ça va à l'encontre. Les gens qui déboulonnent les statues d'esclavagistes, c'est pas l'histoire de cette histoire.
Les révolutionnaires français ont fait la même chose. Hein.
Oui.
C'est-à-dire que, justement, l'acte de déboulonner une statue, il est... Comment ?
Non,
mais il permet ou il permet pas, enfin, il permet justement, ça dépend de. En fait, l'acte de. Enfin, il faudrait voir l'intention qu'il y a derrière l'acte de déboulonner la statue. Il peut très bien être une volonté de faire valoir sa souffrance absolue, de vouer un culte à sa mémoire de l'esclavage. Ou il peut très bien être la volonté de reconstruire une autre mémoire dans laquelle. C'est vrai que par exemple, à Lille, Federbe est omniprésent. Et quand on y réfléchit deux secondes, c'est quand même un poil problématique que Federbe soit aussi présent.
Saddam Hussein, en Irak, du gros statut.
Donc parce que Federbe, c'est un grand homme, jusqu'au faubourg de Douai. Après, Federbe, tout. Voilà. Donc, en effet, ça dépend de. En fait, il faut voir la. Quelle conception il y aurait derrière le déboulonnage de statues. Le déboulonnage de statues, il existera toujours, il a toujours existé.
Oui, voilà. C'est pas nouveau, hein.
Et quelque part, s'indigner contre le déboulonnage, ou au contraire, militer pour le déboulonnage, c'est un acte politique. Et voilà. J'aurais tendance à dire que dans les deux cas, il y a quand même une conception de la mémoire un petit peu fermée.
Encore une question ? Oui.
Vous avez abordé le problème de la psychanalyse. Est-ce qu'il y a une sorte de mémoire très ancienne, sociale Parce qu'à un moment donné, vous avez dit. Peut-être que je me trompe. L'histoire de France commence il y a moins de 30 ans.
C'était une référence à Boucheron, hein. C'était une blague. Voilà. C'est parce que le livre de Boucheron, c'est l'histoire mondiale de la France de moins 30 000 jusqu'à nos jours.
Est-ce qu'il y a à un moment donné une mémoire tellement ancienne qu'elle est trop historique, mais comportementale dans.
Alors, il faudrait aller voir chez Jung, là, du coup, la notion d'inconscient collectif.
Voilà,
ouais. Oui, là, c'est vrai que j'ai pas. J'ai
pas... Par exemple, on peut avoir ça comme.
Oui, alors, je pense, Jung, en fait, l'inconscient collectif, il vient du fait que la conscience est un retrait du monde. C'est-à-dire que, originellement, ce que dit Jung, je ne sais pas si c'est fondé ou pas, originellement, on est dans une projection dans le monde. C'est-à-dire que j'attribue à cette bouteille une pensée magique et cette bouteille interagit avec moi et quelque part, je place ma conscience autant dans la bouteille que dans moi. Ce qui fait que si elle tombe, je vais me faire mal. Ce qui est un petit peu gênant pour agir dans le monde, hein, c'est un peu la pensée magique, si vous voulez. C'est un peu gênant pour agir sur le monde et quelque part, pour agir, je suis obligé de me retirer des objets. Et de considérer les objets comme de manière dépassionnée face à moi. Et ce retrait, forcément, n'est jamais total. Il reste toujours des éléments qu'on ne comprend pas. Ce retrait, c'est ce qui va créer la science. Hein. Il reste toujours des éléments qu'on ne comprend pas, où on va attribuer un peu de mythique, un peu de magie. Voilà, la superstition. Voilà. Et là, se niche de l'inconscient. Or, comme on a tous les mêmes manières de se retirer du monde, on crée tous. Le même forme d'inconscient, ce qui crée des archétypes et ce qui crée des inconscients collectifs. Inconscient collectif qui va créer, du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas considéré, qui va créer en effet une forme de mémoire, enfin en tout cas une forme de geste collectif, une forme de comportement collectif, qu'il s'agirait de prendre en compte et qui correspondrait à peu près à ce que dit Nora quand il dit que. Si nous habituons encore notre mémoire, je ne sais plus exactement comment il le dit, si nous habiterions-nous encore notre mémoire, nous n'aurions pas besoin d'y consacrer des lieux, il n'y aurait pas de lieu parce qu'il n'y aurait pas de mémoire emportée par l'histoire. Chaque geste, jusqu'au plus quotidien, serait vécu comme la répétition religieuse de ce qui s'est fait depuis toujours. Là, on est assez proche, la mémoire non reprise par l'histoire, on est assez proche de l'inconscient collectif.
C'est un petit peu le cas des sociétés dites primitives.
Oui, dit, voilà.
Qui n'ont pas une conception linéaire du temps et qui réactivent le passé comme s'il était présent. Enfin, il y a des cérémonies, un culte des ancêtres.
Oui.
Mais,
alors, voilà, j'ai toujours un peu de mal avec cette considération des sociétés primitives qui seraient hors de l'histoire.
Mais il y a quelque chose de figé. Il s'agit de perpétuer avant tout.
Oui. Et en même temps, quand on lit Descola, c'est pas si figé que ça.
Non.
mais voilà, je sais pas si... Oui, il faudrait... En fait, mais à partir du moment où il y a une reprise par l'histoire, on plaque quelque chose, on plaque une conscience sur nos comportements malgré tout. Et donc, du coup, ce que vous proposez sur cette mémoire comportementale, elle serait plus à aller chercher du côté de l'anthropologie.
Oui, voilà,
oui.
Encore une question, puis on y va. On considère que la séance est close. Eh bien, merci, Nicolas, à nouveau. Voilà, merci bien.